Le chapitre 4 de Jean raconte le dialogue entre une femme samaritaine aux mœurs légères et Jésus qui lui a révélé sans détour qu'il était le Messie, l'envoyé de Dieu, et elle l'a cru, alors que les disciples, eux, n'en sont pas si sûrs. Je continue le texte. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?»« Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Versets 31-34. Les disciples se sont bien rendus compte que quelque chose s'était passé. Auparavant, Jésus était fatigué et assoiffé. Maintenant, la nourriture et la boisson n'avaient plus d'importance pour lui. Son humeur avait changé. Comme d'habitude, ils ont toujours un train de retard. Leurs pensées sont axées sur les choses matérielles. C'est l'occasion pour Jésus de leur enseigner que sa grande passion était de faire la volonté de son Père qui l'avait dirigé vers ce puits pour rencontrer cette femme afin de la conduire sur la voie d'une foi authentique. Sa priorité relève du domaine spirituel et non pas matériel. Je continue. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux, regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Verset 35. Les fermiers doivent attendre un certain temps entre les semailles et les récoltes. La moisson a lieu en avril et nous sommes probablement en décembre. Cependant, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de longue période d'attente. Depuis que Jésus est venu, chaque jour est un moment propice. Les disciples n'avaient qu'à regarder autour d'eux pour voir les gens qui étaient affamés sur le plan spirituel, comme la Samaritaine. Tout ce qui est requis, c'est la vision et le discernement spirituel. Je continue. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson que vous n'avez pas semée, qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. » Versets 36 à 38. En tant que moissonneur, les disciples avait le grand privilège de conduire des gens à Jésus-Christ, ce qui en soi était aussi une récompense. Jésus distingue clairement celui qui sème de celui qui récolte. Ceux qui ont déjà préparé le terrain et jeté la semence en terre sont les juges et les prophètes de l'Ancien Testament depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Ce sont ces croyants qui ont été fidèles à l'Éternel et à sa loi. Grâce à eux, le vrai Dieu est encore adoré, même si cela est très imparfait, à la fois par les Samaritains et par les Juifs. Dans les temps anciens, le moment des récoltes était une période de festivité. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'ai personnellement expérimenté ces réjouissances en Alsace à la fin de l'été, quand on ramassait les pommes pour faire le cidre, les prunes pour les tartes et l'eau-de-vie, et qu'on cueillait les raisins pour le mettre en cuve. Il y avait aussi les pêches de vigne, les poires, les mirabelles, etc. C'était la fête, et j'en ai gardé un très bon souvenir. Pareillement, il y a une grande joie lorsque quelqu'un décide d'accepter la personne du Christ et de le suivre. Mais c'est difficile de semer sans récolter. Jean-Baptiste a fidèlement exhorté le peuple juif à se repentir, mais il fut assassiné avant le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres virent avec une très grande joie des milliers de personnes de toute nation reconnaître en Jésus le Messie et leur Sauveur. Ce fut le début de l'Église. Je continue. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et ils disaient à la femme « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Versets 39 à 42. Le témoignage de la Samaritaine fut efficace. Elle a dû avoir une vie transformée pour influencer tant de gens. Ils sont tout d'abord venus voir Jésus, puis lui ont demandé de rester avec eux. C'est alors qu'il les a enseignés pendant 2 jours, ce qui fit qu'un plus grand nombre crut en lui. Cela est d'autant plus remarquable qu'au tout début de l'Évangile, il est dit « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont point reçu ». Fin de citation. En effet, les Juifs, le peuple choisi, l'ont rejeté alors qu'il s'est produit un réveil spirituel dans cette bourgade samaritaine. Les villageois vinrent à Jésus qui est la source d'eau vive. Tout ce qu'il leur était demandé était de désirer ce que le Seigneur avait à offrir, le pardon des fautes et la vie éternelle. Ce faisant, Jésus accomplissait une prophétie de l'Ancien Testament que je cite. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. » Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Tendez l'oreille. Venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Fin de citation. Plus loin, dans l'évangile de Jean, Jésus confirmera encore une fois ses paroles. Je cite le passage. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. » Fin de citation. Humainement parlant, tout a commencé par le témoignage d'une femme. Son témoignage a fait boule de neige. C'est elle qui a influencé les gens de son village. Cependant, elle fut le fil conducteur, mais pas le courant. La foi fondée sur le témoignage d'un autre n'est que secondaire. La foi véritable provient d'une rencontre personnelle avec le Christ. En dernier recours, c'était sur les paroles mêmes de Jésus que les Samaritains ont cru. Cette déclaration finale, « Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde », est le sommet de tout le récit car cette affirmation souligne le rôle de Jésus et l'universalité de son message. Il n'est pas seulement venu pour le peuple d'Israël, mais pour toute nation, toute tribu et toute langue, comme l'apôtre Jean lui-même l'écrit dans le livre de l'Apocalypse, que je cite. « Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau vêtus de tuniques blanches. » Fin de citation. Je continue le texte. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient, eux aussi, allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Versets 43-45. Après ces 2 jours de ministère, Jésus et ses disciples quittent la Samarie et remontent dans le nord de la Palestine pour gagner la Galilée. Il est paradoxal que Jésus ne reçoive pas chez lui l'honneur qui lui est dû alors qu'il fut bien accueilli par les Samaritains. C'est vrai qu'il fut relativement bien accueilli par les Galiléens, mais il faut s'arrêter sur la raison. C'était à cause des miracles qu'ils avaient vus. Ils avaient été divertis, surpris, amusés, puis ça avait fait les choux gras de la Gazette de Jérusalem. Ces gens n'ont aucun mérite, Bien recevoir quelqu'un qui vous guérit de vos maladies est la moindre des choses. La suite va bien montrer qu'éventuellement, Jésus-Christ sera rejeté par tous, y compris deux de ses apôtres, Judas et Pierre. Quant aux autres, ils prendront la fuite et se cacheront par peur des Juifs. Je continue le texte. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaüm vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Versets 46 à 47. Jean continue à nous donner des indications temporelles et géographiques précises. Ce haut fonctionnaire était probablement un juif attaché au service du roi Hérode, Antipas, un renégat. Il avait sans aucun doute épuisé tous les recours médicaux qui s'offraient à lui dans le coin, mais en peine perdue. Il était au désespoir. Son statut social et son argent ne lui ayant pas été utiles pour aider son fils, il fait donc un voyage d'au moins une journée et de presque 60 kilomètres pour venir voir Jésus. Étant donné la dignité de son rang, son attitude de supplication révèle l'urgence de la situation. Son fils se meurt. Je continue. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. » Mais le fonctionnaire insistait, « Seigneur, viens vite, avant que mon petit garçon ne meure. » Versets 48 à 49. La réplique de Jésus, bien que tranchante, était nécessaire. En effet, une foi fondée seulement sur des signes miraculeux ne mène nulle part. Aujourd'hui, ce fonctionnaire veut la guérison de son fils. Et demain, ce sera quoi? Une foi qui ne dépend que d'événements extraordinaires n'est jamais satisfaite. Tant que je serai ici-bas, les choses vont souvent prendre mauvaise tournure, car je suis encore et toujours sous la malédiction que Dieu a prononcée sur la race humaine suite à la rébellion de nos premiers parents. Quoi qu'il en soit, ce haut fonctionnaire était tellement bouleversé par l'agonie de son fils qu'il n'était pas en mesure de recevoir les enseignements de Jésus, encore moins discuter théologie. Il ne pouvait qu'implorer sa miséricorde. Je continue. « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi. Ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Verset 50. Jésus garde tout son calme devant la requête désespérée de ce fonctionnaire. Puis il prononce de simples paroles. « Va, ton fils est bien portant. » Ça paraît trop facile. Il n'a demandé aucune précision sur la maladie. Depuis quand est-il dans cet état? Est-ce pire le matin ou le soir? Il n'a même pas levé les bras au ciel, ni même les yeux. Il n'a pas imploré l'Éternel. Il n'a rien fait du tout. Il a juste dit, « Va, ton fils est bien portant. » C'est quand même impressionnant. Pourtant, cet homme a cru. Il remonte sur sa bête avec ses serviteurs et il retourne chez lui. Je me demande ce qui se passe dans sa tête. A-t-il des moments de doute? Je continue. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils est bien portant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier, vers 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est bien portant !» Dès lors, il crut, lui et toute sa maison. Versets 51 à 53. Il n'y a maintenant plus aucun doute. Les serviteurs qui surveillaient l'enfant, constatant la guérison subite et inexplicable du petit malade, sautent sur leur cheval et foncent à bride abattue à la rencontre de leur maître, lui annoncer la bonne nouvelle. La fièvre désigne toute une gamme de maladies possibles allant d'une infection au cancer. En tout cas, elle n'est pas tombée subitement par hasard. Le Seigneur de l'univers a donné un ordre et sur sa parole, la maladie a obéi et s'est retirée. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. La parole de Jésus a tout pouvoir et elle est créatrice de la vie. La conséquence fut que toute la maisonnée de ce haut fonctionnaire crut en Jésus, ce qui inclut également les serviteurs. Mais qu'est-ce que cela veut-il dire au juste? Que Jésus pouvait faire des miracles? Qu'il était le Fils de Dieu, le Messie? On ne sait pas trop. On ne peut qu'espérer que la foi de ces gens est bien réelle et non de circonstances. Si oui, alors le Père emmena certainement son Fils faire la connaissance de celui qui l'avait sauvé de la mort en le guérissant à distance. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Je continue. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Verset 54. Les deux miracles accomplis en Galilée, le changement de l'eau en vin et le rétablissement soudain de l'enfant de cet officier, démontrent que Jésus est bel et bien celui qui a été promis depuis toujours. Cependant, il y a eu une atmosphère de secret qui a entouré ces deux prodiges. En effet, seuls les disciples et quelques serviteurs ont assisté au miracle de l'eau en vin. Et la guérison du fils du haut fonctionnaire avait, elle aussi, eu lieu à l'écart des foules. Jusqu'à présent, l'apôtre Jean a surtout mis l'accent sur les interactions privées du Seigneur. Les miracles, bien sûr, mais aussi les entretiens avec Nicodème et la Samaritaine. Jésus est allé spécialement au puits de Jacob, en territoire quasi ennemi, pour y rencontrer une femme afin de se révéler en tant que Messie, ainsi qu'aux habitants de son village. L'évangile de Jean raconte plusieurs histoires qui ont aussi un sens symbolique et qui demandent un peu de réflexion. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Écritures contiennent quelquefois des énigmes telles les paraboles du Christ dans les autres évangiles. Ainsi, dans l'Ancien Testament, c'est au bord d'un puits que les patriarches Isaac, fils d'Abraham, et Jacob, le père de la nation d'Israël, ainsi que Moïse, ont rencontré leur future épouse. Or, Jean-Baptiste avait appelé Jésus-Christ l'époux, sans que l'identité de l'épouse soit précisée. Dans l'Ancien Testament, la mariée représente le véritable peuple de Dieu. Dans le Nouveau, ce sont ceux qui boivent à la source d'eau vive et qui adorent le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire les chrétiens, qui constituent l'Église. Celle-ci est appelée l'épouse de Christ et est constituée d'Israélites, mais principalement de païens. La Samaritaine est une représentante idéale de l'Église parce qu'elle combine à la fois les Juifs et les païens. Les deux miracles que Jésus a faits à Cana ont plusieurs points communs. Dans chacun des cas, quelqu'un exprime un besoin. Jésus n'y répond pas tout de suite. La personne persévère, persuadée qu'il peut corriger la situation. Et finalement, Jésus intervient effectivement, mais à sa manière, et en conséquence, la foi de ceux qui en sont témoins est fortifiée. Avec Nicodème, Jésus avait insisté sur la nécessité de la nouvelle naissance conduisant à la vie éternelle. À la femme samaritaine, il lui a parlé d'une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et finalement, il redonne la vie un enfant mourant. Et c'est ainsi que nous voici arrivés au chapitre 5 de l'évangile de Jean, qui raconte une autre guérison miraculeuse du Christ. Mais en réalité, ce nouveau signe marque un tournant dans son ministère. En effet, il lui a valu la haine des autorités religieuses juives qui, dès lors, telles des hyènes sanguinaires, ne le lâcheront plus d'une semelle jusqu'à ce qu'il soit exécuté sur la croix. Tout de suite après la guérison du paralytique, nous lisons ce passage. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Fin de citation. Le conflit portait sur le jour du sabbat. N'importe quelle excuse était bonne pour attaquer Jésus. Les teignes religieuses le haïssaient parce qu'il avait dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Fin de citation. Jésus ne faisait qu'énoncer la raison du jour du repos. Il avait été institué pour le bien-être de l'homme et non pour l'obliger à observer des règles pénibles le septième jour. Il est donc évident que de faire une guérison un jour de sabbat était parfaitement légitime selon la loi. Bien sûr, le fait que Jésus ait enfoncé le clou en disant qu'il avait l'autorité de suspendre la règle du sabbat avait fait son effet. Et c'est plutôt mal passé chez les religieux juifs qui avaient la prétention arrogante de pouvoir faire la pluie et le beau temps en matière religieuse. Ils ont tout de suite vu qu'une menace pesait sur leur statut élevé de dirigeants respectables et riches, d'où leur haine féroce à l'égard du Christ. Ajoutez à cela qu'il se disait égal à l'Éternel, et on comprend qu'il était le malvenu et qu'il n'y aurait pas d'armistice tant qu'il serait encore en vie. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.